Chapitre 23. Le bal de Noël. Malgré la quantité de devoirs que les élèves de quatrième année avaient à faire pendant les vacances, Harry n'était pas du tout d'humeur à travailler lorsque le trimestre s'acheva et il passa la semaine qui précédait Noël à s'amuser le plus possible avec les autres. Il y avait presque autant de monde qu'en temps normal dans la tour de Gryffondor, mais elle semblait avoir un peu rétréci en raison du tapage qui y régnait sans cesse. Fred et George avaient eu beaucoup de succès avec leur crème canarie. Pendant les deux premiers jours de vacances, il était fréquent de voir des plumes jaunes pousser soudain sur le dos de quelqu'un. Mais les élèves de Gryffondor prirent bientôt l'habitude d'examiner avec beaucoup de précaution tout ce qu'on leur offrait à manger de peur qu'une crème canarie y soit dissimulée. George confia à Harry que Fred et lui travaillaient maintenant à une nouvelle idée et Harry se promit de ne plus jamais accepter d'eux la moindre chips. Il n'avait toujours pas oublié Dudley et les pralines longue-langue. À présent, la neige tombait dru sur le château et dans le parc. Le carrosse bleu pâle des beaux bâtons avait l'air d'une grosse citrouille givrée à côté de la cabane de Hagrid qui ressemblait à un pain d'épices recouvert de sucre glacé. Les hublots et les mâts du vaisseau de Durmstrang étaient eux aussi recouverts de givre. À la cuisine, les elfes de maison se surpassaient en voyant sur les tables de succulents et réconfortants ragoûts, ainsi que des gâteaux plus savoureux que jamais. Et seule, Fleur de la Cour arrivait à trouver des raisons de se plaindre. « Enfin, c'est insensé, c'est beaucoup trop lourd, tout ce qu'on mange à Poudlard !» dit-elle un jour avec mauvaise humeur, tandis qu'il quittait la grande salle. Ron se cacha derrière Harry pour qu'elle ne le voie pas. « Je ne vais plus pouvoir rentrer dans mes robes !»
« Oh, mais voilà une véritable petite tragédie !» dit sèchement Hermione. « Elle se prend vraiment pour quelqu'un, celle-là » !»«
Hermione, avec qui tu vas au bal ?» demanda Ron.
Il ne cessait de lui poser la question, espérant obtenir une réponse en la prenant au dépourvu. Mais Hermione se contenta de froncer les sourcils et répondit
« Je ne te le dirai pas, tu te moquerais de moi. »«
Tu plaisantes, Wesley !» dit Malfoy qui était sorti derrière eux. « Tu vas quand même pas me dire que quelqu'un a demandé à ça de l'accompagner au bal, hein ? Une sang de bourbe aux dents de lapin ?»
Harry et Ron firent brusquement volte-face, mais Hermione agita la main en regardant par-dessus l'épaule de Malfoy et lança.
« Bonjour, professeur Maugret !»
Malfoy devint livide. Il fit un bond en arrière, jetant des regards frénétiques autour de lui pour voir où était Maugret. Mais celui-ci se trouvait toujours à la table des professeurs où il terminait son assiette de ragoût.
« Tu m'as l'air d'une petite fouine très nerveuse, Malfoy, » dit Hermione d'un ton cinglant.
Tous trois éclatèrent d'un rire sonore en montant l'escalier de marbre.
« Hermione !» dit soudain Ron. Il lui lança un regard en coin, les sourcils froncés. « Tes dents ? »
« Qu'est-ce qu'elles ont, mes dents ?»«
Elles sont différentes. Viens de m'en apercevoir. »
« Évidemment qu'elles sont différentes. Qu'est-ce que tu crois ? Que j'allais garder ces crochets de serpent qui m'ont poussé à cause de Malfoy ?»
« Non, je veux dire qu'elles sont différentes de ce qu'elles étaient avant qu'il te jette le sortilège. Elles sont droites et d'une taille normale. »
Hermione eut soudain un sourire malicieux et Harry le remarqua à son tour. C'était un sourire très différent de celui qu'il connaissait.
« Quand je suis allée voir Madame Pomme Fraîche pour me les faire rétrécir, elle m'a mis un miroir devant le nez. Je devais lui dire stop quand elles auraient retrouvé leur longueur habituelle, » expliqua-t-elle. Mais je l'ai laissé aller un peu plus loin.
Son sourire s'élargit.
Mes parents ne vont pas être très contents. Depuis des années, j'essaie de les convaincre que je peux les réduire avec un traitement magique, mais ils ont toujours voulu que je continue à porter mon appareil. Ils sont dentistes, alors ils pensent que la magie et les dents, ça ne va pas très bien ensemble. Oh, regardez, Coxigru est revenu.
Le minuscule hibou de Ron ululait comme un fou au sommet de la rampe ornée de stalactites, un rouleau de parchemin attaché à sa patte. Les élèves qui passaient devant lui le montraient du doigt en éclatant de rire et un groupe de filles de troisième année s'arrêta devant lui.
« Oh, regarde ce petit hibou, il est trop mignon !» dit l'une d'elles.
« Espèce de petit imbécile emplumé !» siffla Ron entre ses dents.
Il monta l'escalier 4 à 4 et attrapa Coxigru.
« Tu dois apporter les lettres directement à leur destinataire. On te demande pas de te promener partout en faisant de malin. »
Coxigru lança un ululement joyeux, sa tête dépassant du poing de Ron. Les filles de troisième année eurent l'air choquées.
« Fiche le camp !» leur lança sèchement Ron.
Il brandit le poing dans lequel il tenait Coxigru qui ulula plus joyeusement que jamais.
« Tiens, prends ta lettre, Harry !»
ajouta Ron à mi-voix pendant que les filles s'éloignaient en hâte, l'air scandalisé. Il détacha de la patte de Coxigru la réponse de Sirius et Harry la glissa dans sa poche. Puis,
ils se hâtèrent de retourner à la tour de Gryffondor pour la lire.
Dans la salle commune, tout le monde était beaucoup trop occupé à s'amuser le plus brillamment possible pour s'intéresser à ce que faisaient les autres. Harry, Ron et Hermione allèrent s'asseoir à l'écart près d'une fenêtre dont les carreaux se couvraient peu à peu de neige. Et Harry lut la lettre à haute voix.
« Cher Harry, félicitations pour avoir réussi à prendre un œuf aux magières à pointe. Celui qui a mis ton nom dans la coupe ne doit pas être très content à l'heure qu'il est. Je m'apprêtais à te conseiller un sortilège de conjonctivite car le point faible des dragons, c'est leurs yeux.
« C'est ce que Crow m'a fait !» murmura Hermione.
« Mais la façon dont tu t'y es pris est bien meilleure et m'a impressionné. Ne te repose pas sur tes lauriers, cependant, tu n'as accompli qu'une seule des trois tâches. Celui qui t'a fait entrer dans ce tournoi aura beaucoup d'autres occasions de te nuire, si telle est son intention. Ouvre l'œil. En particulier, lorsque la personne dont nous avons parlé se trouve dans les parages, et fais tout ton possible pour éviter les ennuis. Continue à m'écrire, je veux toujours que tu me tiennes au courant de tout ce qui se passe d'inhabituel. Sirius. »
« Il parle comme Maugrey, » dit Harry à voix basse en glissant la lettre dans sa poche. « Vigilance constante, comme si j'allais me promener les yeux fermés en me cognant contre les murs. »
« Mais il a raison, Harry, » fit observer Hermione. « Tu as encore deux tâches à accomplir. Tu devrais t'occuper de cet œuf et essayer de découvrir ce qu'il signifie. »«
Hermione, il a tout son temps pour ça, » dit Ron.
« Tu veux faire une partie d'échecs, Harry ?»«
Ouais, d'accord. »
Voyant l'expression d'Hermione, Harry ajouta. « De toute façon, comment veux-tu que je me concentre avec tout le bruit qu'il y a ici? Je n'arriverai même pas à entendre les cris de l'œuf dans ce vacarme. »«
Tu dois avoir raison, » soupira Hermione.
Elle s'assit et regarda leur partie d'échecs que Ron remporta grâce à deux pions téméraires et un fou qui ne reculait devant aucune violence. Le jour de Noël, Harry se réveilla en sursaut en se demandant ce qui l'avait si brusquement tiré du sommeil. Il ouvrit les paupières et vit deux grands yeux ronds et verts qui le fixaient de tout près dans l'obscurité.
« Dobby !» s'écria Harry en reculant si violemment qu'il faillit tomber du lit. « Ne me fais pas ça !»«
Oh, Dobby est désolé, monsieur. »
couina l'elfe d'un air anxieux. Il avait fait un bond en arrière, ses longs doigts plaqués sur sa bouche.
« Dobby voulait seulement souhaiter un joyeux Noël à Harry Potter et lui apporter un cadeau, monsieur. » « Harry Potter a dit que Dobby pouvait venir le voir un jour, monsieur. Hein ?»«
C'est pas grave, » répondit Harry, dont la respiration était encore un peu saccadée, tandis que son cœur retrouvait peu à peu un rythme normal. « Mais à l'avenir, donne-moi plutôt un petit coup de coude, d'accord ? Ne te penche pas sur moi comme ça. »
Harry ouvrit les rideaux de son baldaquin, prit ses lunettes sur la table de nuit et les mit sur son nez. Son cri avait réveillé Ron, Simus, Dean et Neville. Tous les quatre, les yeux ensommeillés, les cheveux en bataille, regardaient ce qui se passait par l'entrebâillement de leurs rideaux.
« Quelqu'un t'a attaqué, Harry ?» demanda Simus d'une voix pâteuse.
« Non, c'est Dobby, » marmonna Harry. « Vous pouvez vous rendormir. »«
Non, les cadeaux !»
dit Simus en montrant les paquets entassés au pied de son lit. Puisqu'ils étaient réveillés, Ron, Dean et Neville décidèrent d'en profiter pour regarder eux aussi leurs cadeaux. Harry se tourna vers Dobby qui était resté debout à côté de son lit, apparemment inquiet à l'idée de l'avoir mis de mauvaise humeur.
Une boule de Noël était attachée sur le cache-théière dont il était toujours coiffé.
« Est-ce que Dobby peut donner son cadeau à Harry Potter ?»
couina-t-il timidement.
« Bien sûr, » répondit Harry. « J'ai aussi quelque chose pour toi. »
C'était un mensonge. Il n'avait rien acheté pour Dobby, mais il se hâta d'ouvrir sa grosse valise et en retira une paire de chaussettes qui avaient une drôle de forme. C'étaient les plus vieilles et les plus laides qu'il possédait. Elles étaient couleur moutarde et avaient appartenu à l'oncle Vernon. La raison pour laquelle elles avaient une drôle de forme, c'était qu'il y avait rangé son scrutoscope un an auparavant et ne l'en avait plus sorti depuis. Il ôta le scrutoscope et donna les chaussettes à Dobby.
« Désolé, j'ai oublié de te faire un paquet cadeau, » dit-il. Mais Dobby semblait absolument ravi.
« Oh, les chaussettes sont les vêtements préférés de Dobby, monsieur. Oui !»
dit-il en enlevant ses chaussettes dépareillées pour mettre celles de l'oncle Vernon.
« J'en ai 7 maintenant, monsieur. Ouais, bah oui. Mais, monsieur... »
dit-il les yeux écarquillés après avoir tiré les chaussettes sur toute leur longueur, ce qui les faisait arriver jusqu'à son short.
« Ils ont fait une erreur dans le magasin. Harry Potter. Ils vous ont donné les deux mêmes.
Harry, enfin, comment as-tu pu ne pas t'en apercevoir ? S'exclama Ron, assis sur son lit au milieu de tous les papiers qui avaient enveloppé ses cadeaux. « Tiens, Dobby, prends aussi ces deux-là, tu pourras les mélanger avec les autres. » « Et voilà ton pull. » Il jeta à Dobby une paire de chaussettes violettes qu'il venait de trouver dans un paquet et le pull vert que Madame Wesley avait tricoté pour lui. Dobby paraissait au comble de la félicité.
« Oh, monsieur, c'est très gentil !»
s'exclama-t-il de sa petite voix aiguë, les yeux à nouveau remplis de larmes, en s'inclinant bien bas devant Ron.
Dobby savait que monsieur doit être un grand sorcier, car il est le plus grand ami de Harry Potter. Mais Dobby ignorait que c'était un esprit aussi généreux, aussi noble, aussi magnanime.
Oh, ce ne sont que des chaussettes, dit Ron, dont les oreilles avaient rosi, mais qui semblaient quand même flattées. Oh là là, Harry ! Il venait d'ouvrir le cadeau que Harry lui avait fait, un chapeau de l'équipe des canons de Chudley. Super ! Il le mit sur sa tête, la couleur du chapeau jurant horriblement avec celle de ses cheveux. Dobby tendit alors à Harry un petit paquet qui contenait des chaussettes.
« Dobby les a faites lui-même, monsieur. »
dit l'elfe d'un ton satisfait.
« Il a acheté la laine grâce à son salaire. Ah, 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 oui. »
L'une des chaussettes était rouge vif avec des motifs en forme de balai volant. L'autre était verte et ornée de vives d'or. Elles sont... Ah, ça, oui, elles sont vraiment... Hein ? Merci, Dobby, dit Harry, qui les mit aussitôt. À nouveau, les yeux de Dobby se remplirent de larmes de bonheur.
Dobby doit s'en aller maintenant, on prépare déjà le réveillon dans les cuisines,
dit l'elfe avant de sortir en hâte du dortoir, en adressant de grands signes de la main à tout le monde. Les autres cadeaux de Harry étaient beaucoup plus satisfaisants que les chaussettes dépareillées de Dobby. À l'exception, bien sûr, de celui des Dursley, qui lui avait envoyé un unique mouchoir en papier, un record de mesquinerie. Eux aussi devaient se souvenir de la praline longue-langue. Hermione lui avait offert un livre intitulé « Les équipes de Quidditch de Grande-Bretagne et d'Irlande ». Ron, un grand sac de bombes à bouse. Sirius, un couteau de poche avec des lames spéciales qui permettaient d'ouvrir n'importe quelle serrure et de défaire n'importe quel nœud. Et Hagrid, une grande boîte remplie des bonbons préférés de Harry. Trajet surprise de Bertie Crochu, Choco-Grenouille, Bulle Baveuse et Fils Weasleys. Il y avait également l'habituel paquet de Madame Wesley dans lequel il trouva un pull tricoté main, vert, avec une image de dragon, ce qui faisait penser que Charlie lui avait raconté en détail l'épisode du magier à pointe, et une grande quantité de petits pâtés. Harry et Ron retrouvèrent Hermione dans la salle commune et ils descendirent ensemble prendre leur petit déjeuner. Ils passèrent la plus grande partie de la matinée dans la tour de Gryffondor où chacun s'émerveillait de ses cadeaux. Puis ils retournèrent dans la grande salle pour un somptueux déjeuner où furent servis une centaine de dindes et des puddings de Noël dans les détonations incessantes des pétards surprises. L'après-midi, ils sortirent dans le parc. La neige était intacte. À part les profonds sillons qu'avaient tracés les pas des élèves de Beauxbatons et de Durmstrang sur le chemin du château. Hermione préféra assister à la bataille de boules de neige entre Harry et les Wesley plutôt que d'y participer, et elle remonta à 5 heures se préparer pour le bal. « Tu as besoin de 3 heures pour ça !» dit Ron en la regardant d'un air incrédule. Cet instant d'inattention lui valut de prendre sur la tête une grosse boule de neige lancée par George. « Tu vas avec qui ?» lui cria Ron alors qu'elle s'éloignait. Mais elle se contenta de lui adresser un signe de la main et disparut à l'intérieur du château. Il n'y eut pas de thé de Noël cette année-là, car le bal comportait également un réveillon et, à 7 heures, lorsque le manque de lumière ne permit plus de viser convenablement, ils mirent fin à la bataille de boules de neige et retournèrent dans la salle commune. La grosse dame était assise dans son cadre en compagnie de son amie Violette. Elles étaient entourées de boîtes vides de chocolat à la liqueur et paraissaient un peu éméchées.
« Grilang, oui, c'est bien ça !» gloussa la grosse dame lorsqu'ils prononcèrent le mot de passe et elle pivota pour les laisser passer.
Harry, Ron, Simus, Dean et Neville montèrent dans le dortoir pour mettre leur tenue de soirée. Ils avaient l'air mal à l'aise et empruntés, mais Ron sembla effaré en se contemplant dans le grand miroir. Quel que fût l'angle sous lequel on la regardait, sa tenue ressemblait plus à une robe de femme qu'à toute autre chose. Dans un effort désespéré pour la rendre plus virile, il en détacha les dentelles à l'aide d'un sortilège de découpe. Le résultat fut déjà plus satisfaisant. Au moins, les fanfreluches avaient disparu. Mais Il n'avait pas été très précis dans son découpage et des fils continuaient de pendre tristement du col et des manches.
« Je comprends toujours pas comment vous avez fait pour avoir les plus jolies filles de l'école, » marmonna Dean tandis qu'il descendait l'escalier.
« Question de magnétisme animal, » répondit Ron d'un air sombre en tirant les fils de ses manches. Les élèves, vêtus d'étoffes de diverses couleurs, au lieu des habituelles robes uniformément noires, donnaient à la salle commune un aspect étrange. Parvati attendait Harry au bas des marches. Elle était vraiment très jolie dans sa robe rose vif, coiffée d'une longue natte noire entrelacée de fils d'or, des bracelets également en or étincelant à ses poignets. Harry fut soulagé de voir qu'elle ne gloussait pas.
« Oh, ça te va bien tout ça, hein ?» dit-il maladroitement.
« Merci, » répondit Parvati. « Padma va te retrouver dans le hall d'entrée, » ajouta-t-elle en se tournant vers Ron.
« Très bien, » dit-il.
Il jeta un regard autour de lui.
« Où est Hermione ?»
Parvati haussa les épaules.
« On descend, Harry, » dit-elle.
« D'accord, » répondit Harry, qui aurait préféré rester dans la salle commune.
Fred lui adressa un clin d'œil lorsqu'il passa devant lui pour sortir dans le couloir. Le hall d'entrée était bondé. Les élèves piétinaient en attendant que les portes de la grande salle s'ouvrent à 8 heures précises. Ceux qui venaient de maisons différentes et qui s'étaient donné rendez-vous là se faufilaient parmi la foule, essayant de trouver leur partenaire. Parvati alla chercher sa sœur Padma et l'amena auprès de Harry et de Ron.
« Salut !» dit Padma, qui était aussi jolie que Parvati dans sa robe turquoise. Elle n'eut cependant pas l'air très enthousiaste d'avoir Ron pour cavalier. Elle le regarda des pieds à la tête et ses yeux sombres s'attardèrent sur le col et les manches élimés de sa robe.
« Salut !» dit Ron en regardant ailleurs.
« Oh non !»
Il se baissa légèrement pour se cacher derrière Harry. Fleur de la Cour venait d'apparaître, resplendissant, dans une robe de satin argenté, accompagnée par Roger Davis, le capitaine de l'équipe de Quidditch de Serre d'Aigle. Lorsqu'ils se furent éloignés, Ron se redressa et jeta un coup d'œil dans la foule.
« Mais où est Hermione ? » répéta-t-il.
Un groupe d'élèves de Serpentard monta du sous-sol où se trouvait leur salle commune.
Malfoy était à leur tête. Il était vêtu d'une robe de soirée en velours noir, à col dur, qui, aux yeux de Harry, lui donnait l'air d'un vicaire. Pansy Parkinson, dans une robe rose pâle, surchargée de dentelles, lui tenait étroitement le bras. Crabbe et Goyle étaient tous deux vêtus de vert. On aurait dit deux rochers recouverts de mousse, et Harry remarqua avec satisfaction que ni l'un ni l'autre n'avait réussi à se trouver une partenaire.
Les grandes portes de chêne de l'entrée s'ouvrirent, et tout le monde se retourna pour voir arriver les élèves de Durmstrang menés par le professeur Karkaroff.
Krum était en tête du groupe, accompagné d'une ravissante jeune fille que Harry ne connaissait pas et qui était habillée d'une élégante robe bleue. À travers la porte ouverte, Harry vit qu'une partie de la pelouse avait été transformée en une espèce de grotte qu'éclairaient des guirlandes lumineuses formées par des centaines de fées vivantes assises dans des massifs de roses ou voltant au-dessus des statues qui représentaient le Père Noël et ses reines.
La voix du professeur McGonagall s'éleva alors dans le hall.
« Les champions par ici, s'il vous plaît !»
Parvati, le visage rayonnant, rajusta ses bracelets. Harry et elle dirent « à tout à l'heure » à Ron et Padma, puis s'avancèrent parmi la foule qui s'écarta pour les laisser passer. Le professeur McGonagall, qui portait une robe écossaise à dominante rouge et avait accroché une affreuse couronne de chardon, symbole de l'Écosse, autour de son chapeau, leur demanda d'attendre à côté de la porte pendant que les autres élèves entraient dans la grande salle. Ils devaient y pénétrer à leur tour, les uns derrière les autres, lorsque leurs camarades seraient installés à leur table. Fleur de la Cour et Roger Davis attendirent tout près de l'entrée. Davis paraissait si émerveillé d'avoir été choisi comme cavalier par Fleur qu'il ne cessait de la contempler d'un air admiratif. Cédric et Cho étaient également tout près de Harry, qui détourna les yeux pour ne pas avoir à leur parler. Son regard se posa alors sur la fille qui accompagnait Krum, et il resta bouche bée. C'était Hermione. Mais elle ne ressemblait plus du tout à Hermione. Elle avait complètement changé de coiffure. Ses cheveux, d'habitude touffus et emmêlés, étaient lisses, soyeux et élégamment relevés sur la nuque. Elle portait une robe vaporeuse d'un bleu pervenche, et son maintien était différent. Peut-être était-ce dû à l'absence de la vingtaine de livres qu'elle portait d'ordinaire sur son dos. Elle souriait avec une certaine nervosité, il est vrai, et cette fois, on voyait nettement que ses dents avaient bel et bien rétréci. Harry se demanda comment il avait pu ne pas le remarquer avant.
« Salut, Harry, » dit-elle.
Salut, Parvati. » Parvati fixait Hermione avec un air d'incrédulité qui n'était guère flatteur. Elle n'était d'ailleurs pas la seule. Lorsque les portes de la grande salle s'ouvrirent, les filles du fan club qui épiaient Krumm dans la bibliothèque passèrent devant eux en jetant à Hermione des regards dégoûtés. Pansy Parkinson, toujours au bras de Malfoy, ouvrit la bouche de stupeur lorsqu'elle la reconnut, et Malfoy lui-même sembla incapable de trouver une insulte à lui lancer. Ron, en revanche, passa devant Hermione sans la voir. Lorsque tout le monde fut installé dans la grande salle, le professeur McGonagall demanda au champion de se mettre en rang par couple et de la suivre. Tout le monde applaudit leur entrée et ils se dirigèrent vers une grande table ronde au bout de la salle à laquelle les juges étaient déjà assis. Les murs de la grande salle avaient été recouverts d'un givre argenté étincelant et des centaines de guirlandes de gui et de lierre s'entrecroisaient sous le plafond parsemé d'étoiles. Les tables des différentes maisons avaient disparu, remplacées par une centaine de tables plus petites, éclairées par des lanternes, autour desquelles pouvaient s'asseoir une douzaine de convives. Harry se concentra pour ne pas trébucher. Parvati avait l'air de bien s'amuser. Elle adressait à tout le monde des sourires rayonnants et menait Harry avec une telle poigne qu'il avait l'impression d'être un chien savant à qui on faisait faire un numéro. En approchant de la table ronde, il aperçut Ron et Padma. Ron regardait passer Hermione en plissant les yeux et Padma semblait boudeuse. Dumbledore adressa au champion un sourire joyeux, mais Karkaroff fut une expression très proche de celle de Ron lorsqu'il vit arriver Krumm et Hermione. Ludo Verpe, qui portait ce soir-là une robe violette, parsemée de grandes étoiles orangées, applaudissait avec le même enthousiasme que les élèves. Madame Maxime, qui avait abandonné son habituel uniforme de satin noir au profit d'une longue robe de soie couleur lavande, se contenta d'applaudir poliment. Harry s'aperçut alors que M. Croupton n'était pas là. La cinquième place était occupée par Percy Weasley. Lorsque les champions et leurs partenaires furent arrivés devant la table, Percy recula la chaise vide qui se trouvait à côté de lui en regardant Harry. Celui-ci comprit et alla s'asseoir à côté de lui. Percy avait l'air plus arrogant que jamais, vêtu d'une robe bleu marine toute neuve. « J'ai été promu, » dit-il avant que Harry eût le temps de poser la moindre question. Il n'aurait pas eu un ton différent s'il lui avait annoncé qu'il venait d'être élu chef suprême de l'univers. « Je suis maintenant l'assistant personnel de M. Croupton, et il m'a chargé de le représenter. »« Pourquoi n'est-il pas venu lui-même ? » demanda Harry. Il n'avait pas l'intention de subir pendant tout le dîner une conférence sur l'épaisseur des fonds de chaudron. « Je suis navré d'avoir à le dire, mais depuis la Coupe du Monde, M. Croupton ne se sent pas bien, mais pas bien du tout. Ce qui n'a rien de surprenant, le surmenage. Ah oui, il n'est plus si jeune, bien que toujours brillant, cela va sans dire. Son esprit n'a rien perdu de sa profondeur, mais la Coupe du Monde a été un fiasco pour l'ensemble du ministère. Et en plus, M. Croupton a subi un choc personnel considérable en raison du comportement intolérable de son elfe de maison, la Whisky, ou je ne sais plus comment elle s'appelle. » Bien entendu, il l'a aussitôt renvoyé, mais il a besoin qu'on s'occupe de lui. Je crois que la vie quotidienne est devenue beaucoup plus difficile pour lui depuis le départ de son elfe. En plus, il a fallu organiser le tournoi et affronter les conséquences de la Coupe du Monde, cet épouvantable Rita Skeeter qui n'arrête pas de nous tourner autour. Vraiment, le pauvre homme avait bien le droit de passer un Noël tranquille. Je suis content qu'il sache que quelqu'un en qui il puisse avoir toute confiance est là pour le remplacer. Voilà. Harry avait très envie de demander si M. Croupton avait cessé d'appeler Percy Weasley, mais il résista à la tentation. Les assiettes d'or étaient encore vides, mais un menu était posé devant chacune d'elles. Harry prit le sien d'un geste hésitant et jeta un coup d'œil dans la salle. Il n'y avait pas de serveur. Dumbledore, lui, examina attentivement le menu, puis, s'adressant à son assiette, dit à haute voix « Côte de porc !» Des côtes de porc apparurent aussitôt. Suivant son exemple, les autres convives passèrent également commande à leur assiette. Harry se tourna vers Hermione pour voir ce qu'elle pensait de cette manière nouvelle et plus compliquée d'être servie. Les elfes de maison devaient avoir beaucoup de travail supplémentaire. Mais pour une fois, Hermione semblait ne pas se soucier de la SAL. Elle était absorbée dans une grande conversation avec Krumm et restait indifférente au contenu de son assiette.
Harry se rendit compte qu'il n'avait jamais entendu Krumm parler auparavant. Mais en cet instant, il paraissait intarissable et même enthousiaste.
« Nous aussi, nous avons un château, mais pas aussi grand ni aussi confortable, » disait-il à Hermione. « Nous avons seulement 4 étages et on allume les feux dans les cheminées que pour la pratique de la magie. Nous avons un parc plus grand que celui-ci. En hiver, il ne fait pas jour longtemps et nous ne pouvons pas beaucoup en profiter. Mais en été, nous volons toute la journée au-dessus des lacs et des montagnes.
Allons, allons, Victor!
Intervint Karkarov avec un rire qui ne changea rien à la froideur de son regard.
N'en dites pas plus, sinon votre charmante amie n'aura aucun mal à vous trouver, hein?
Dumbledore sourit, les yeux pétillants.
Igor, pourquoi tout ce secret? On aurait presque l'impression que vous ne voulez pas recevoir de visiteurs.
Vous savez, Dumbledore,
répondit Karkarov en découvrant toute l'étendue de ses dents jaunâtres,
nous tenons tous à protéger notre domaine. N'avons-nous pas le désir de garder jalousement les lieux du savoir qui nous ont été confiés? N'avons-nous pas raison de tirer fierté d'être les seuls à connaître les secrets de nos écoles? Et raison aussi de vouloir les préserver?
Oh, n'aurai jamais la prétention d'affirmer que je connais tous les secrets de Poudlard, Igor,
répliqua Dumbledore d'un ton amical.
Pas plus tard que ce matin, par exemple. Je me suis trompé de chemin en allant aux toilettes, oui, 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 et me suis retrouvé dans une pièce aux proportions admirables que je n'avais encore jamais vue. Or, savez-vous ce qu'il y avait dans cette pièce? Une magnifique collection de pots de chambre, oui. Et quand j'y suis retourné pour l'examiner de plus près, je me suis aperçu que la pièce avait disparu. Bon, mais j'essaierai quand même de la retrouver, oui, oui, oui. Il est possible qu'on ne puisse y accéder qu'à 5h30 du matin. Oui, oui, oui. Ou alors peut-être qu'elle n'apparaît que lorsque la lune est à son premier quartier. Oui, oui. Ou encore lorsque celui qui la cherche a la vessie particulièrement pleine.
Percy fronça les sourcils et Harry étouffa un rire dans son assiette de goulash. Il aurait juré que Dumbledore lui avait lancé un très discret clin d'œil. Pendant ce temps, Fleur de la Cour était occupée à faire part à Roger Davis des critiques que lui inspiraient les décorations de Poudlard pour Noël.
« Enfin, regardez-moi ça, c'est insensé, quoi »
disait-elle d'un ton dédaigneux en jetant un coup d'œil au mur étincelant de la grande salle.
« Au palais de Beaubaton, à Noël, il y a des sculptures de glace tout autour de la grande salle à manger. Bien entendu, elles ne fondent pas, cela va de soi. Ce sont d'immenses statues de diamants qui étincellent de tout leur feu. Et la cuisine, ce qu'on nous sert là-bas est un véritable enchantement. Sans compter les cœurs de nymphes. Ah oui, oui, les cœurs de nymphes qui nous donnent la sérénade pendant le réveillon. Nous n'avons pas ces horribles armures dans les couloirs. Et si jamais un esprit frappeur avait l'audace de pénétrer à Beaubaton, il serait expulsé, stop, comme ça. »
Du plat de la main, elle donna une tape sur la table d'un geste impatient. Roger Davis la regardait parler, l'air si ébahi qu'il n'arrivait même plus à trouver sa bouche pour y mettre ce qu'il y avait au bout de sa fourchette. Harry pensa qu'il était certainement trop occupé à contempler Fleur pour comprendre un mot de ce qu'elle disait.
« On saurait mieux dire... » répondit précipitamment Davis en tapant à son tour sur la table dans une parfaite imitation du geste de Fleur. « Comme ça! Exactement, oui. »
Harry jeta un coup d'œil dans la grande salle. Hagrid était assis à une autre des tables réservées au professeur. Il avait remis son horrible costume marron et Harry remarqua qu'il faisait un petit signe de la main en direction de leur table. Il se retourna et vit Madame Maxime répondre à son geste, ses bijoux d'opale scintillant à la lumière des chandelles. « À présent, Hermione était en train d'apprendre à Krum à prononcer convenablement son nom. Il ne cessait de l'appeler Hermione.
« Hermione !» dit-elle en articulant lentement et distinctement. « Hermione !»«
Pas mal !» dit-elle avec un sourire en échangeant un regard avec Harry. Lorsque tout le monde eut fini de dîner, Dumbledore se leva et demanda aux élèves d'en faire autant. Puis, répondant à un geste de sa main, les tables allèrent d'elles-mêmes s'aligner le long des murs, dégageant un vaste espace au milieu de la salle. Dumbledore fit alors apparaître contre le mur de droite une estrade, sur laquelle était disposée une batterie, plusieurs guitares, un luth, un violoncelle et quelques cornemuses. Les Bizarre Sisters se précipitèrent sur la scène, accueillies par une salve d'applaudissements frénétiques. Elles avaient toutes les cheveux très longs et étaient vêtues de robes noires qui avaient été savamment déchirées en divers endroits. Elles prirent leurs instruments et Harry, si occupé à les observer qu'il en avait presque oublié le bal, s'aperçut soudain que les lanternes s'étaient éteintes et que les autres champions, accompagnés de leurs partenaires, s'étaient levés.
« Viens, » murmura Parvati, « il faut danser maintenant. »
Lorsqu'il se leva à son tour, Harry se prit les pieds dans sa robe. Les Bizarre Sisters commencèrent à jouer un air lent et mélancolique et il s'avança vers la piste de danse brillamment éclairée, évitant soigneusement de croiser les regards des autres élèves. Il voyait Simus et Dean ricaner en lui faisant de grands signes. Soudain, Parvati lui prit les mains, en glissa une autour de sa taille et serra l'autre fermement entre ses doigts. Ce n'était pas aussi terrible qu'il l'avait redouté, songea Harry, en tournoyant lentement sur place. Parvati guidait ses pas. Il continuait de regarder au-dessus des têtes pour essayer de ne voir personne, mais bientôt, d'autres élèves vinrent les rejoindre sur la piste de danse, et les champions cessèrent d'être le centre de l'attention générale. Neville et Ginny dansaient un peu plus loin. Il vit Ginny faire la grimace chaque fois que Neville lui marchait sur les pieds. Et Dumbledore valsait avec Madame Maxime. Il était si petit à côté d'elle que la pointe de son chapeau lui atteignait à peine le menton. Elle se mouvait cependant avec grâce pour une femme aussi corpulente. Maugrey Folleuil dansait très maladroitement un pas de polka avec le professeur Sinistra qui se préoccupait surtout d'éviter de se faire écraser le pied par sa jambe de bois.
« Très belle chaussette, Potter !»
grogna Maugrey en passant devant lui, son œil magique fixant le bas de sa robe.
« Oui, c'est Dobby, l'elfe de maison, qui me les a tricotées, » répondit Harry avec un sourire. « Il me donne la chair de poule, » murmura Parvati, tandis que Maugrey s'éloignait en claudiquant. « Ça ne devrait pas être permis, un œil comme ça. »
Harry entendit avec soulagement la cornemuse lancer une dernière note avec un savant trémolo. Les Bizarre Sisters s'arrêtèrent de jouer sous les applaudissements et Harry lâcha aussitôt Parvati.
« On va s'asseoir, d'accord ?»« Oh, mais j'aime beaucoup cet air-là, » dit Parvati. Les Bizarre Sisters jouaient à présent l'introduction d'un nouveau morceau sur un rythme beaucoup plus rapide. « Moi, je n'aime pas du tout, » mentit Harry.
Et il l'entraîna vers la table à laquelle Ron et Padma étaient assis, passant devant Fred et Angelina qui dansaient avec une telle frénésie que tout le monde s'écartait d'eux pour éviter les coups.
« Comment ça va ?»
demanda Harry à Ron en s'asseyant et en débouchant une bouteille de bière au beurre. Ron ne répondit pas. L'œil noir, il observait Hermione et Krum qui dansaient un peu plus loin. Padma était assise à côté de lui, bras et jambes croisés, battant la mesure avec son pied. De temps à autre, elle lui jetait un regard mécontent auquel il ne prêtait pas la moindre attention. Parvati s'assit de l'autre côté de Harry. À son tour, elle croisa bras et jambes et quelques minutes plus tard, un élève de Beaubaton l'invita à danser.
« Ça ne te dérange pas, Harry ? » demanda-t-elle.
« Quoi ?» dit Harry qui regardait à présent Cho et Cédric.
« Aucune importance, »
répliqua sèchement Parvati en s'éloignant avec le garçon de Beaubaton. Elle ne réapparut pas à la fin du morceau. Ce fut Hermione qui vint s'asseoir sur la chaise vide de Parvati. La danse lui avait donné le teint un peu rose.
« Salut, » dit Harry.
Ron resta silencieux.
« Oh, il fait chaud, trouvez pas ?» fit remarquer Hermione en s'éventant d'une main. « Victor est allé chercher quelque chose à boire. »
Ron lui lança un regard féroce.
« Victor !» dit-il. Tu ne l'appelles pas encore Vicky,
hein ? Hermione eut l'air surpris.
Qu'est-ce qui t'arrive ?
Si tu ne le sais pas, ne compte pas sur moi pour te le dire, répliqua Ron d'un ton cinglant. Hermione le regarda sans comprendre, puis se tourna vers Harry qui haussa les épaules.
Ron, qu'est-ce que... Il est à Durmstrang,
lança Ron.
C'est un adversaire de Harry, un adversaire de Poudlard.
Ron s'interrompit, cherchant des mots suffisamment forts pour qualifier le crime d'Hermione.
« Tu es en train de fraterniser avec l'ennemi. Voilà ce que tu fais. »
Hermione resta bouche bée. «
Est-ce que tu peux être bête ? »
dit-elle après un moment de stupeur.
« L'ennemi ? Non mais vraiment ! Qu'est-ce qui était tout excité quand il est arrivé ici ? Qu'est-ce qui voulait un autographe ? Qu'est-ce qui a une figurine de lui dans son dortoir ? »
Ron préféra ne pas répondre.
« J'imagine qu'il t'a demandé de l'accompagner au bal quand vous étiez tous les deux à la bibliothèque. »«
Exactement, » dit Hermione, les joues de plus en plus roses. « Et alors ?
Comment ça s'est passé ? Tu as essayé de lui vendre un badge SALE, c'est ça ?
Pas du tout. Si tu veux vraiment le savoir, il a dit qu'il venait tous les jours à la bibliothèque pour essayer de me parler, mais qu'il n'avait jamais osé. »
Hermione avait dit cela très vite et son teint devint d'un rose aussi vif que la robe de Parvati.
« Oui, bien sûr, c'est ce qu'il t'a raconté, » dit Ron d'un ton mauvais.
« Qu'est-ce que tu veux dire ?»«
Évident, non. C'est un élève de Karkaroff, d'accord ? Il sait très bien qui sont tes amis. Et il essaye tout simplement de se rapprocher de Harry. Il veut obtenir des informations ou trouver l'occasion de lui jeter un mauvais sort. »
Hermione n'aurait pas eu une expression différente si Ron l'avait giflé. « Je te signale, » dit-elle d'une voix tremblante, « qu'il ne m'a pas demandé la moindre chose au sujet que Harry, pas la moindre !»
Ron changea d'angle d'attaque à la vitesse de la lumière.
« Alors il espère tout simplement que tu vas l'aider à résoudre l'énigme de l'œuf. J'imagine que vous avez parlé de choses et d'autres pendant ces charmantes petites séances à la bibliothèque.
Il ne me viendrait jamais à l'idée de l'aider en quoi que ce soit, » s'insurgea Hermione. « Jamais. Comment peux-tu dire une chose pareille ? Je veux que ce soit Harry qui gagne le tournoi, et il le sait très bien, n'est-ce pas Harry ?»«
T'as une drôle de façon de le montrer, » répliqua Ron d'un ton sarcastique.
Ce tournoi a pour but de rencontrer des sorciers d'autres pays et de nouer des liens d'amitié avec eux !» s'exclama Hermione d'une voix perçante.
« Non, c'est pas du tout ça !» dit Ron. « Il s'agit de gagner, rien d'autre !»
Des regards commençaient à se tourner vers eux.
« Ron !» dit Harry à voix basse. « Ça m'est égal qu'Hermione soit venue au bal avec Krum !»
Mais Ron ne prêta pas davantage attention à Harry.
« Tu ferais bien de rejoindre Vicky. Il va se demander où tu es passé, »
dit-il à Hermione.
« Arrête de l'appeler Vicky !»
Hermione se leva d'un bond et se précipita vers la piste de danse en se perdant dans la foule. Ron la regarda s'éloigner avec un mélange de colère et de satisfaction.
« Est-ce que tu as l'intention de m'inviter à danser ?» lui demanda Padma.
« Non, »
répondit Ron qui cherchait Hermione des yeux, le regard toujours furieux.
« Très bien, » dit sèchement Padma.
Elle se leva et alla rejoindre Parvati et le garçon de beau bâton qui fit apparaître un de ses amis avec une telle soudaineté que Harry le soupçonna d'avoir utilisé un sortilège d'attraction.
« Où est parti Hermione ?»
Krum venait d'arriver devant leur table, une bière au beurre dans chaque main.
« Aucune idée !»
dit Ron d'un air buté en levant les yeux vers lui.
« Tu l'as perdu ?»
Krum se renfrogna à nouveau.
« Si vous la voyez, vous pouvez lui dire que j'ai les bières ?»
marmonna-t-il avant de s'éloigner de sa démarche gauche.
« Alors on dirait que tu es devenu ami avec Victor Krum, Ron ?»
Percy s'était précipité vers leur table en se frottant les mains d'un air très supérieur.
« Très bien, c'est ça le but, la coopération magique internationale !»
Au grand agacement de Harry, Percy s'assit sur la chaise que Padma venait de quitter. La table des champions était vide à présent. Le professeur Dumbledore dansait avec le professeur Shourave, Ludo Verpet avec le professeur McGonagall et Madame Maxime et Hagrid tournoyaient dans une valse effrénée, traçant un large chemin parmi la foule des autres danseurs qui s'écartaient prudemment sur leur passage. Karkaroff, lui, n'était pas là. À la fin du morceau suivant, tout le monde applaudit à nouveau et Harry vit Ludo Verpet faire un baise-main au professeur McGonagall puis s'éloigner de la piste de danse.
Il fut alors accosté par Fred et Georges.
« Qu'est-ce qui leur prend, ces deux-là, d'importuner un haut responsable du ministère ?» dit Percy entre ses dents. « Ils n'ont vraiment mais aucun respect !»
Mais Ludo Verpet se débarrassa rapidement des jumeaux. Apercevant Harry, il lui adressa un signe de la main et s'approcha de leur table.
« J'espère que mes frères ne vous ont pas ennuyé, monsieur Verpet !» s'empressa de demander Percy.
« Quoi ? Oh non, pas du tout, pas du tout !» répondit Verpet. « Il voulait simplement me parler de ces baguettes farceuses qu'il fabrique. Il se demandait si je pourrais leur donner des conseils sur la façon de les commercialiser. Je leur ai promis de les mettre en relation avec une ou deux personnes que je connais chez Onco, le magasin de farce et attrape. »
Percy sembla très mécontent et Harry était prêt à parier qu'il s'empresserait de tout raconter à Madame Weasley dès qu'il serait rentré à la maison. Apparemment, les projets de Fred et de George devenaient de plus en plus ambitieux. Verpet ouvrit la bouche pour demander quelque chose à Harry, mais Percy prit la parole avant lui.
« Que pensez-vous de la façon dont se déroule le tournoi, monsieur Verpet ?
Notre département est très satisfait. Le petit ennui que nous avons eu avec la coupe de feu, » il lança un coup d'œil à Harry, « était certes un peu fâcheux, mais depuis, les choses semblent s'être fort bien arrangées, vous ne croyez pas ?»«
Oh, bah oui, bien sûr !» répondit Verpet d'un ton joyeux. « Nous nous sommes beaucoup amusés. Comment va ce cher vieux Barty ? Hein ? Dommage qu'il n'ait pas pu venir !»
« Oh, je suis certain que M. Croupton sera très vite remis, » assura Percy d'un air important. « Mais en attendant, il peut compter sur moi pour remettre les choses en ordre. Bien entendu, ma tâche ne se limite pas à assister à des soirées dansantes. Croyez-moi, il m'a fallu résoudre de nombreux problèmes qui se sont accumulés pendant son absence. Vous avez sans doute appris qu'Ali Bachir a tenté d'introduire en fraude dans le pays une cargaison de tapis volants. Nous avons dû également essayer de convaincre les Transylvaniens de signer les accords internationaux d'interdiction du duel. Eh oui, je dois rencontrer le responsable de la coopération magique au début de la nouvelle année.
« Viens, on va faire un tour, » murmura Ron à l'oreille de Harry. « J'en ai assez de Percy. »
Harry et Ron s'excusèrent en disant qu'ils allaient chercher quelque chose à boire, puis ils contournèrent la piste de danse et sortirent dans le hall. La grande porte à double battant était restée ouverte et les fées lumineuses qui voltaient dans le jardin de roses scintillèrent autour d'eux tandis qu'ils descendaient les marches menant au parc. Ils se retrouvèrent entourés de massifs et de buissons parmi lesquels serpentaient des chemins bordés de fleurs et de grandes statues de pierre. Harry entendit l'eau d'une fontaine ruisseler quelque part. Par endroits, des couples étaient assis sur des bancs sculptés. Ron et Harry suivirent un des chemins qui s'enfonçait parmi les roses, mais à peine avaient-ils parcouru quelques dizaines de mètres qu'ils entendirent une voix familière et particulièrement désagréable.
« Je ne vois aucune raison de faire tant d'histoires, Igor. »«
Severus,
Tu ne peux pas faire comme s'il ne se passait rien. »
La voix de Karkarov semblait anxieuse, étouffée, comme s'il ne voulait pas être entendu.
« Depuis plusieurs mois, on la voit de plus en plus nettement. » poursuivit-il. « Je commence à être très inquiet. Je dois l'avouer. »« Alors prends la fuite !» répliqua sèchement la voix de Rogue. « Va-t'en, je trouverai une explication pour justifier ton absence. Moi, en tout cas, je reste à Poudlard. »
Rogue et Karkarov apparurent au détour du chemin. Rogue paraissait de très mauvaise humeur. Il avait sorti sa baguette magique et lancé de petits sortilèges pour écarter les buissons de roses. Des cris aigus s'élevaient des bosquets et des silhouettes sombres en émergeaient.
« 10 points de moins pour Poufsouffle, Fossette !» grogna Rogue en voyant une fille s'enfuir à toutes jambes. « Et également 10 points de moins pour Serdaigle, Stebbins !» ajouta-t-il à l'adresse du garçon qui courait derrière la fille. « Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux ?»
Cette fois, c'était à Harry et à Ron qu'il parlait. Il venait de les apercevoir un peu plus loin sur le chemin. Harry remarqua le léger trouble de Karkarov lorsqu'il les vit apparaître. D'un geste nerveux, il enroula à nouveau l'extrémité de son bouc autour de son doigt.
« On se promène !» répliqua Ron à ton sec. « C'est pas interdit, que je sache. »« Eh bien, continuez à vous promener !»
lança Rogue en les croisant d'un pas vif, sa longue cape noire flottant derrière lui. Karkarov se hâta de le suivre pendant que Harry et Ron poursuivaient leur chemin.
« Qu'est-ce qui inquiète tant Karkarov ?» murmura Ron. « Et depuis quand est-ce que Rogue et lui se tutoient ?» dit lentement Harry. Ils étaient arrivés devant une grande statue de reine au-dessus de laquelle ils voyaient scintiller les jets d'eau d'une fontaine. Deux immenses silhouettes se dessinaient un peu plus loin, assis sur un banc de pierre, contemplant la fontaine au clair de lune.
Harry entendit alors la voix de Hagrid.
« Dès que je vous ai vu, j'ai compris, »
disait-il d'une étrange voix rauque. Harry et Ron s'immobilisèrent. Ce n'était pas le meilleur moment pour se montrer. Harry regarda derrière lui et vit Fleur de la Cour et Roger Davis à demi cachés derrière un buisson de roses. Il donna une tape sur l'épaule de Ron et fit un signe de tête dans leur direction pour lui faire comprendre qu'il pouvait repartir discrètement par là. Fleur et Davis paraissaient très occupés, mais Ron, les yeux écarquillés d'horreur à la vue de Fleur, hocha vigoureusement la tête et entraîna Harry un peu plus loin à l'ombre du grand renne de pierre.
« Qu'est-ce que vous avez compris, Hagrid ?» susurra Madame Maxime d'une voix qui semblait ronronner.
Harry ne voulait surtout pas entendre la suite. Il savait que Hagrid n'aimerait pas du tout être surpris dans une telle situation. Vraiment pas du tout. Si cela avait été possible, il se serait bouché les oreilles et aurait chanté très fort pour être sûr de ne rien entendre. Mais il était inutile d'y songer. Il essaya plutôt de s'intéresser à un scarabée qui rampait sur la croupe du renne, mais l'insecte n'était pas suffisamment passionnant pour l'empêcher d'entendre ce que disait Hagrid.
« J'ai simplement compris que vous étiez comme moi. C'était votre mère ou votre père. Je sais pas très bien ce que vous voulez dire, Hagrid. » « Moi, c'était ma mère, »
dit Hagrid en baissant la voix.
« Elle était l'une des dernières de Grande-Bretagne. Bien sûr, je ne me souviens pas très bien d'elle. Elle est partie, comprenez, quand j'avais environ 3 ans. Elle n'était pas vraiment du genre maternel. Faut dire que c'est pas dans leur nature. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Elle est peut-être morte. »
Madame Maxime ne répondit rien. Harry détacha malgré lui son regard du scarabée et regarda par-dessus la ramure du renne, écoutant. Il n'avait encore jamais entendu Hagrid parler de son enfance.
« Mon père en a eu le cœur brisé quand elle est partie. Il était tout petit, mon père. À 6 ans, j'arrivais à le soulever et à l'asseoir sur le buffet de la cuisine quand il m'énervait. Ça le faisait rire, hein, oui. »
La voix grave de Hagrid se brisa. Madame Maxime écoutait, immobile, contemplant les jets d'eau argentés de la fontaine.
« C'est papa qui m'a élevé. Mais il est mort juste après mon entrée à l'école. Alors j'ai dû me débrouiller tout seul. Dumbledore m'a bien aidé. Il a été très gentil avec moi. »
Hagrid sortit de sa poche un grand mouchoir à pois et se moucha bruyamment.
Enfin, bon, assez parlé de moi. Et vous, c'était de quel côté ?
Mais Madame Maxime s'était soudain levée.
Il fait un peu froid.
Quelle que fût la température, cependant, elle n'aurait pu être aussi froide que sa voix.
« Je crois que je vais rentrer maintenant.
Hein ?»
dit Hagrid, pris au dépourvu.
« Non, ne partez pas. Je n'en avais encore jamais rencontré d'autres jusqu'à maintenant. »«
D'autres quoi exactement ?»
interrogea Madame Maxime d'un ton glacial. Harry aurait voulu dire à Hagrid de ne surtout pas répondre. Il resta là, dans l'ombre, les dents serrées, espérant contre tout espoir qu'il ne répondrait rien. Mais c'était inutile.
« D'autres demi-géants, bien sûr, » dit Hagrid.
« Comme un gros fou !»
s'écria Madame Maxime. Sa voix explosa comme une corne de brume dans l'atmosphère paisible de la nuit. Derrière lui, Harry entendit Fleur et Roger se redresser dans leur buisson de roses.
« Je n'ai jamais un temps insulté de ma vie !» Une demi-géante, un demi-géante, moi! Sache, monsieur, que j'ai simplement une forte ossature!
Et elle s'en alla d'un pas furieux. Des essaims de fées multicolores s'envolèrent sur son passage, tandis qu'elle écartait des buissons à grands gestes rageurs. Hagrid, toujours assis sur son banc, la regarda partir. Mais il faisait trop sombre pour distinguer l'expression de son visage. Il resta ainsi un long moment. Puis il se leva et s'éloigna à grands pas, non en direction du château, mais vers sa cabane, plongée dans l'obscurité. « Viens !» chuchota Harry à l'oreille de Ron. « Allons-y !» Mais Ron ne bougea pas.
« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Harry en le regardant d'un air surpris. Ron se tourna vers lui. Il avait le visage grave. « Tu étais au courant ? » murmura-t-il. « Que Hagrid était un demi-géant ?»«
Non !» répondit Harry en haussant les épaules. « Et alors ?» En voyant le regard que lui lança Ron, il comprit qu'il venait de révéler une fois de plus son ignorance du monde de la magie. Élevé par les Dursley, beaucoup de choses que les sorciers savaient dès l'enfance lui étaient longtemps restées inconnues. Mais depuis qu'il avançait dans ses études, ses soudaines révélations devenaient de moins en moins nombreuses. À cet instant, cependant, il comprit que la plupart des autres sorciers n'auraient certainement pas dit « Et alors ?» en découvrant qu'un de leurs amis avait une géante pour mère. « Viens, on va rentrer, je t'expliquerai, » dit Ron. Fleur et Roger Davis avaient disparu, sans doute dans un bosquet moins exposé aux regards. Harry et Ron retournèrent dans la grande salle. Parvati et Padma étaient à présent assises à une table éloignée en compagnie d'un groupe de garçons de beau bâton, et Hermione dansait à nouveau avec Chrome. Harry et Ron choisirent une table à l'écart de la piste de danse et s'y installèrent. « Alors, dit Harry, c'est quoi le problème des géants ?»«
Eh bien, ils sont...
Ron chercha ses mots.
« Ils sont pas très agréables, »
dit-il maladroitement.
Ben, « Qu'est-ce que ça peut faire ?»
dit Harry. « Hagrid, lui, n'a rien de désagréable. »«
Je sais, mais ça ne m'étonne pas qu'il n'en parle jamais, »
reprit Ron en hochant la tête.
« J'ai toujours pensé qu'il avait dû subir un sortilège d'empiffrement quand il était enfant ou quelque chose dans ce genre-là, et qu'il préférait garder ça pour lui.
Mais qu'est-ce que ça peut bien faire que sa mère ait été une géante ?» dit Harry.
Pour ceux qui le connaissent, ça n'a pas d'importance, parce qu'ils savent qu'il n'est pas dangereux,
dit Ron avec lenteur.
Mais il faut que tu le saches, Harry, ils sont épouvantables, les géants. Comme l'a dit Hagrid, c'est dans leur nature. C'est comme les trolls. Ils aiment tuer. Tout le monde sait ça. Enfin, maintenant, il n'y en a plus en Grande-Bretagne.
Qu'est-ce qui leur est arrivé ?
Ils étaient en voie de disparition et en plus, il y en a beaucoup qui ont été tués par des aurores. Mais on dit qu'il en reste encore dans certains pays. Ils se cachent surtout dans les montagnes.
« Je ne sais pas qui Madame Maxime pense pouvoir tromper, » dit Harry en la voyant assise seule à la table des juges, l'air maussade.
« Si Hagrid est un demi-géant, elle aussi, une forte ossature. Les seuls qui ont une ossature plus forte que la sienne, ce sont les dinosaures. »
Harry et Ron passèrent le reste de la soirée à parler des géants dans leur coin. Ni l'un ni l'autre n'avait envie de danser. Harry essayait de ne pas regarder Cho et Cédric. Les voir ensemble lui inspirait une furieuse envie de donner des coups de pied dans quelque chose ou à quelqu'un. À minuit, les Bizarre Sisters cessèrent de jouer. Elles furent saluées par une nouvelle salve d'applaudissements enthousiastes. Puis les danseurs commencèrent à quitter la salle. Nombre d'entre eux auraient souhaité que le bal se prolonge, mais Harry était ravi de les coucher. Pour lui, la soirée n'avait rien eu de très amusant. Dans le hall d'entrée, Harry et Ron virent Hermione dire au revoir à Chrome
Avant qu'il ne retourne à bord du vaisseau de Durmstrang, elle lança à Ron un regard glacial et monta l'escalier de marbre en passant devant lui sans dire un mot. Harry et Ron la suivirent, mais après avoir monté quelques marches, Harry entendit quelqu'un l'appeler.
« Hé, Harry !»
C'était Cédric Diggory. Cho l'attendait un peu plus loin dans le hall d'entrée. « Oui ?» dit Harry froidement. Cédric le rejoignit dans l'escalier, mais apparemment, il voulait lui parler seul à seul. Ron haussa les épaules avec mauvaise humeur et continua de monter les marches.
« Écoute, Cédric baissa la voix tandis que Ron disparaissait en haut de l'escalier. « J'ai une dette envers toi pour m'avoir parlé du dragon. Alors, je voulais te dire au sujet de l'œuf d'or. Est-ce que le tien se met à hurler quand tu l'ouvres ?»«
Oui, » dit Harry.
« Tu n'as qu'à prendre un bain. D'accord ?»«
Quoi ?
Prends un bain. Avec l'œuf, hein. Et réfléchis. L'eau chaude t'aidera. Fais-moi confiance. »
Harry le regarda. « Un conseil, » poursuivit Cédric, « va dans la salle de bain des préfets. La quatrième porte à droite après la statue de Boris le Hagard au cinquième étage. Le mot de passe, c'est « fraîcheur des pins ». Bon, je te quitte, il faut que j'aille dire bonne nuit. » Il sourit à nouveau et redescendit les marches pour aller retrouver Cho. Harry retourna seul à la tour de Gryffondor. Le conseil que lui avait donné Cédric lui semblait très étrange. Comment se pouvait-il qu'un bain l'aide à comprendre ce que signifiaient les hurlements de cet œuf ? Cédric s'était-il moqué de lui ? Essayait-il de rendre Harry ridicule pour paraître encore plus brillant aux yeux de Cho ? La grosse dame et son amie Violette dormaient dans le tableau. Harry dut crier « Guirlande !» à plusieurs reprises pour les réveiller, et lorsqu'elles consentirent enfin à ouvrir un œil, elles se montrèrent de très mauvaise humeur. Harry se glissa dans la salle commune et retrouva Ron et Hermione qui se disputaient violemment, debout, face à face, à 3 mètres l'un de l'autre, le visage écarlate.
« Si ça ne te plaît pas, tu sais ce qu'il faudra faire à l'avenir ?» criait Hermione. Ses cheveux étaient défaits, les traits de son visage déformés par la fureur. « Ah ouais ?» répliqua Ron en criant aussi fort qu'elle. « Et qu'est-ce qu'il faudra faire ? La prochaine fois qu'il y aura un bal, tu n'auras qu'à me demander d'y aller avec toi avant que quelqu'un d'autre le fasse à ta place, et non pas au dernier moment parce que tu n'auras trouvé personne d'autre !»
Ron ouvrit silencieusement la bouche comme un poisson hors de l'eau, tandis qu'Hermione tournait les talons et montait 4 à 4 l'escalier qui menait au dortoir des filles. Ron se tourna vers Harry.
« Alors ça !» bredouilla-t-il l'air stupéfait. « Ça prouve que... Ça prouve que... Elle a rien compris du tout !»
Harry ne fit aucun commentaire. Il était trop content de s'être réconcilié avec Ron pour oser dire ce qu'il pensait. Mais à son avis, Hermione avait beaucoup mieux compris que Ron.